Chapitre 11. Question. Tu as promis de parler dans le tome 2 des questions géopolitiques plus larges qu'affronte la planète, par opposition aux questions fondamentalement personnelles traitées dans le tome 1. Mais je ne croyais pas que tu entrerais dans ce débat-là. Réponse. Il est temps que le monde cesse de se leurrer, qu'il se réveille, qu'il réalise que le seul problème de l'humanité est le manque d'amour. L'amour engendre la tolérance. La tolérance engendre la paix. L'intolérance produit la guerre et considère de façon indifférente des conditions intolérables. L'amour ne peut être indifférent. Il ne sait comment. La façon la plus rapide d'arriver à un espace d'amour et de préoccupation envers toute l'humanité, c'est de considérer toute l'humanité comme votre famille. La façon la plus simple de voir toute l'humanité comme votre famille, c'est de cesser de vous séparer. Les États-nations qui composent à présent votre monde doivent maintenant s'unir. Question. Nous avons les Nations Unies? Réponse. Qui, jusqu'ici, ont été impuissantes et désemparées. Pour que cet organisme fonctionne, il faudrait qu'il soit complètement restructuré. Ce n'est pas impossible, mais c'est peut-être difficile et encombrant. Question. D'accord, que proposes-tu? Réponse. Je ne propose rien. Je me contente de présenter des observations. Dans ce dialogue, tu me dis quels sont tes nouveaux choix. Et je te fais part de mes observations sur des façons de manifester cela. Qu'est-ce que tu choisis, à présent, concernant la relation actuelle entre les gens et les pays de ta planète? Question. Je vais reprendre tes paroles. Si je pouvais décider, je choisirais que nous arrivions à un espace d'amour et de bienveillance envers toute l'humanité. Réponse. Concernant ce choix, j'observe que ce qui pourrait fonctionner, ce serait la formation d'une nouvelle communauté politique mondiale, chaque État-nation ayant un mot à dire dans les affaires du monde, ainsi qu'une part égale et proportionnelle des ressources du monde. Question. Ça ne fonctionnera jamais. Les possédants ne céderont jamais leur souveraineté, leurs richesses et leurs ressources aux démunis. D'ailleurs, pourquoi devraient-ils le faire? Réponse. Parce que c'est dans le meilleur de leurs intérêts. Question. Ils ne voient pas cela, et je ne suis pas certain de le voir, moi non plus. Réponse. Si vous pouviez ajouter des milliards de dollars par année à l'économie de votre pays, des dollars qui pourraient être dépensés pour nourrir les affamés, vêtir les nécessiteux, loger les pauvres, donner la sécurité aux gens âgés, fournir de meilleurs soins de santé et produire une norme de vie de dignité pour tous, ne serait-ce pas dans le meilleur des intérêts de votre pays? Question. Eh bien, en Amérique, certains prétendent que ce serait aider les pauvres aux dépens des riches et des contribuables à revenus moyens. Entre-temps, le pays continue d'aller au diable, le crime ravage le pays, l'inflation vole aux gens les économies de leur vie, le chômage monte en flèche, le gouvernement devient plus gros et plus gras, et dans les écoles, on distribue des condoms. Réponse. Tu parles comme un animateur de talk show radiophonique. Question. Eh bien, ce sont vraiment les préoccupations de bien des Américains. Réponse. Alors, c'est qu'ils sont myopes. Ne vois-tu pas que si des milliards de dollars par année, cela veut dire des millions par mois, des centaines de milliers par semaine, des quantités inouïes à chaque jour pouvaient être réinjectées dans votre système, que si vous pouviez utiliser ces fonds pour nourrir vos affamés, vêtir vos nécessiteux, loger vos pauvres, apporter la sécurité à vos gens âgés et fournir soins de santé et dignité à tous, les causes du crime disparaîtraient à jamais? Ne vois-tu pas que de nouveaux emplois pousseraient comme des champignons à mesure que les dollars seraient réinjectés dans votre économie? Que votre propre gouvernement pourrait même être réduit parce qu'il aurait moins à faire? Question. Je suppose que cela pourrait arriver, du moins en partie, car je ne peux imaginer que le gouvernement rétrécisse un jour. Mais d'où viendront ces millions et ces milliards de taxes imposées par ton nouveau gouvernement mondial? En prélevant davantage auprès de ceux qui ont travaillé pour en arriver là, pour donner à ceux qui sont incapables d'autonomie et qui s'en donneraient à cœur joie? Réponse. Est-ce ainsi que tu vois les choses? Question. Non, mais c'est ainsi qu'un tas de gens les voient, et je voulais énoncer fidèlement leur vue. Réponse. Alors j'aimerais en reparler plus tard. Je ne veux pas m'égarer, mais je veux y revenir plus tard. Question. Parfait. Réponse. Tu as demandé d'où viendraient ces nouveaux dollars. Eh bien, ceci n'aurait pas à provenir de ces nouvelles taxes imposées par la nouvelle communauté mondiale, même si des membres de la communauté, des citoyens, voulaient, sous un gouvernement éclairé, envoyer 10% de leurs revenus pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la société. Il ne viendrait pas non plus de nouvelles taxes imposées par aucun gouvernement local. En fait, certains gouvernements locaux seraient sûrement à même de réduire les taxes. Tout cela, tous ces bienfaits, résulterait de la simple restructuration de votre vision du monde, de la simple réorganisation de votre configuration politique mondiale. Question : comment ? Réponse : l'argent que vous épargnez en cessant de construire des systèmes de défense et des armements offensifs. Question : oh, je comprends, tu veux que nous fermions l'armée ? Réponse : pas seulement vous, tout le monde. Mais ne fermez pas votre armée. Contentez-vous de la réduire de façon draconienne. L'ordre interne serait votre seul besoin. Vous pourriez renforcer la police locale, une chose que vous dites vouloir faire, tout en criant chaque année, au moment du budget, que vous ne pouvez pas, réduisant en même temps radicalement vos dépenses d'armement de guerre et de préparatifs de guerre, c'est-à-dire d'armement offensif et défensif, de destruction massive. Question. D'abord, je crois que tes chiffres exagèrent les sommes qui pourraient être épargnées ainsi. Ensuite, je ne crois pas que tu puisses jamais convaincre les gens d'abandonner leur capacité de défense. Réponse. Examinons les chiffres. Actuellement, nous sommes le 25 mars 1994. Les gouvernements du monde consacrent environ $1 trilliard par année à des fins militaires. C'est $1 million la minute à l'échelle mondiale. Les pays qui dépensent le plus pourraient détourner la plus grande partie de cet argent sur les autres priorités mentionnées. Ainsi, les pays les plus grands et plus riches verraient qu'il est dans le meilleur de leur intérêt de le faire, s'ils le croient possible. Mais les pays plus grands et plus riches ne peuvent s'imaginer sans défense, car ils craignent l'agression et l'attaque des pays qui les envient et veulent ce qu'ils ont. Il y a deux façons d'éliminer cette menace. Petit 1. Partager suffisamment de la richesse totale et des ressources du monde avec tous les gens de la Terre. Ainsi, personne ne voudra et n'aura besoin de ce qu'un autre possède, et chacun pourra vivre dans la dignité et sortir de la peur. Petit 2. Créer un système de résolution des différends qui éliminera la nécessité et même la possibilité de la guerre. Question. La population du monde ne ferait probablement jamais cela. Réponse. Elle l'a déjà fait. Question. Vraiment ? Réponse. Oui. Il se déroule présentement une grande expérience dans votre monde, concernant précisément ce genre d'ordre politique. Cette expérience s'appelle les États-Unis d'Amérique. Question. Tu as dit que c'était un échec lamentable ? Réponse. C'en est un. Elle a beaucoup de chemin à parcourir avant qu'on puisse l'appeler un succès. Comme promis, je reparlerai plus tard de cela, et des attitudes qui y font présentement obstacle. Néanmoins, c'est la meilleure expérience en cours. Comme le disait Winston Churchill, la démocratie est le pire système, à l'exception de tous les autres. Votre pays a été le premier à unir une confédération souple d'États distincts en un groupe cohérent, chacun se soumettant à une autorité centrale. À l'époque, aucun des États ne voulait le faire, et chacun résista avec force, craignant de perdre sa grandeur et proclamant qu'une telle union ne servirait pas ses meilleurs intérêts. Il peut être éclairant de comprendre exactement ce qui se passait dans ces États distincts, à l'époque. Tandis qu'ils s'étaient joints en une confédération plutôt libre, il n'y avait pas de véritable gouvernement américain, et, par conséquent, aucun pouvoir d'appliquer les articles de la confédération sur lesquels les États s'étaient entendus. Les États s'occupaient de leurs propres affaires étrangères. Plusieurs concluaient des accords privés sur le commerce et d'autres questions avec la France, l'Espagne, l'Angleterre et autres pays. Les États faisaient commerce les uns avec les autres également, et, même si leurs articles de confédération le leur interdisaient, certains États ajoutèrent des tarifs aux biens expédiés à partir d'autres États, comme ils le faisaient déjà aux biens expédiés de l'autre côté de l'océan. Les marchands n'avaient d'autre choix que de payer au port s'ils voulaient acheter ou vendre la marchandise, car il n'y avait aucune autorité centrale, en dépit d'un accord écrit qui interdisait une telle taxation. Les États distincts se livrèrent également à une guerre mutuelle. Chaque État considérait sa milice comme une armée permanente. 9 États avaient leur propre marine et « ne m'écrasez pas » entre guillemets aurait pu être la devise officielle de chacun des États de la Confédération. Plus de la moitié des États imprimaient même leur propre monnaie, même si la Confédération s'était entendue sur le fait que ce serait illégal. Bref, vos États originaux, même s'ils se joignirent sous les articles de la Confédération, agissaient exactement comme des pays indépendants le font aujourd'hui. Même s'ils pouvaient voir que les accords de leur Confédération, tels que le fait d'accorder au Congrès la seule autorité sur la frappe de la monnaie, ne fonctionnaient pas, ils résistèrent avec détermination au fait de créer et de respecter une autorité centrale qui pouvait appliquer ces accords et leur donner du muscle. Cependant, avec le temps, quelques leaders progressistes commencèrent à prévaloir. Ils convainquirent les masses qu'il y avait davantage à gagner qu'à perdre à créer une telle nouvelle fédération. Les marchands allaient épargner de l'argent et augmenter les profits parce que les États distincts ne pouvaient plus taxer les biens des uns et des autres. Les gouvernements allaient épargner de l'argent et en avoir davantage à mettre dans les programmes et services qui aideraient véritablement le peuple, parce qu'on n'aurait pas utilisé les ressources pour protéger les États les uns des autres. Le peuple retirerait une plus grande sécurité et une plus grande prospérité en coopérant plutôt qu'en luttant. Loin de perdre sa grandeur, chaque État deviendrait encore plus grand. Et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. On pourrait faire arriver la même chose avec les 160 États-nations du monde actuel, s'ils se joignaient en une fédération unie. Cela pourrait mettre fin à la guerre.